Sénateur du Québec, aujourd'hui.
Pour la Saint-Jean, pensez chaloux. Achetez 12 canettes de Lavoie maltée et courez la chance de gagner une plancha et une carte cadeau de 50 $. Des micros à 1,99 $ et des bières au prix minimum. Ouvert le 24 juin. Chaloux, Beauport, Saint-Émile et Sainte-Catherine.
Cet été, voyez des spectacles hommages électrisants à Led Zeppelin, Rush, David Bowie et plusieurs autres légendes à l'amphithéâtre de Wendake. Wendake en musique. Une expérience unique sous les étoiles au cœur de Wendake. Billets à wendakeenmusique.com.
Vous pensez vendre maintenant, cet automne ou cet hiver? L'équipe Claudie Asselin, courtier immobilier, s'occupe de prendre vos photos gratuitement cet été. Profitez de la plus belle saison pour mettre votre propriété en valeur. Lumière naturelle, terrain verdoyant, façade à son meilleur, parce qu'on le sait au Québec, l'été dure pas longtemps. Vivez l'effet été à longueur d'année. Évaluation gratuite sans engagement avec l'équipe Claudie Asselin. Appelez-nous au 581-983-1818 ou visitez claudieasselin.com.
Plongez dans 888casino.net. Parce que c'est fait pour jouer. Cet été, pendant que vous profitez du soccer, découvrez une autre forme de divertissement sur 888casino.net. C'est tout simplement fait pour jouer. Wouhou! 888casino.net. Fait pour jouer. 19 ans et plus, jeu gratuit seulement. Veuillez jouer de façon responsable.
Plus de sport, c'est BPM Sport.
BPM Sport.
100.9.
Présenté par Impact Alarme. Une solution complète pour vos besoins. Alarme intrusion, caméra de surveillance et contrôle d'accès. Soumission gratuite, résidentielle ou commerciale. ImpactAlarme.com.
Choix.
Hell yeah!
Choix. 98.
Yeah! 98.
1. Radio X. À Québec, c'est Radio X.
Radio X.
Faites-vous votre propre opinion.
Notez que l'émission d'aujourd'hui est une rediffusion. Veuillez ne pas tenir compte des numéros de téléphone, dates et concours dans le prochain segment.
Oh my gosh! They're all going against the wind. The wind's 100.9
to the west. Radio X. Files.
Avec Christian Page.
Oh my gosh, dude.
Radio X. Des fantômes.
Allô, SOS fantômes.
Ils sont palpables.
Ah oui?
Implacables.
Chez vous?
Indélogeables. SOS fantôme.
Là, il est pas bien en revenant.
Trois hommes capturent un fantôme impossible à tuer. Ils sont armés. Ils sont dangereux.
Eh bien, imagine que toute forme de vie sur Terre meurt instantanément et que chaque molécule de ton pauvre corps explose à la vitesse de la lumière.
Ah bon, et ça, c'est mal. D'accord. Oui, c'est capital comme tuyau. Merci, Gun.
Fémigène ! Mettez le paquet !
SOS Fantôme, avec Bill Murray, Dan Aykroyd, Sigourney Weaver, Harold Ramis, Rick Moranis. Les sauveurs du monde ont monté une société. SOS Fantôme.
Ah, quel film et quel souvenir SOS Fantôme des années 80 pour introduire cette édition des Radio X-Files de cette première journée du mois de mai avec Christian Page. Bonsoir, Christian.
Bonsoir, Nick.
Bon début de mois de mai et j'espère que tu vas bien.
Oui, ça va bien. J'espère que le mois de mai sera plus prometteur ouais. que l'été, le mois d'avril.
Ça n'a pas été facile.
En termes de température. Non, pas été facile. On aurait bien apprécié un petit printemps qui aurait été plus précoce, mais ça, ce n'est pas le cas. Donc, il faudra attendre le mois de mai.
Ouais, on va espérer que ça soit mieux. Mais on se rappellera les années 80 pour introduire cette émission-là avec Ghostbusters. Pourquoi on commence avec ce film-là?
Tout à fait. Donc, c'est un Ghostbuster 1984.
Oui.
Un film qui a été primé, qui a marqué là, toute une génération, hein, une comédie excellente. D'ailleurs, qui est classée dans la liste des 100 meilleures comédies du cinéma américain. Je crois qu'elle est au 25e ou 30e rang, là, un truc comme ça. Donc, c'est un film qui a marqué l'imaginaire. Puis en même temps, ben, il y a eu toute une série de films qui ont fait une franchise qui s'est développée autour de Ghostbuster. Mais pourquoi je te parle de ça? Ben, parce qu'aujourd'hui, c'est notre émission Questions du public. Et quelqu'un m'a envoyé, un auditeur de Radio X-Files, m'a envoyé une vidéo. Et ce sont des... La vidéo, c'est une vidéo tournée, je ne sais pas si c'est par lui, des membres de sa famille, ou de quelle façon il a mis la main sur ces images-là. Mais peu importe les images, on ne voit finalement qu'un appareil, un K2, hein, c'est un appareil qui est souvent utilisé dans le milieu des chasseurs de fantômes. Et c'est un appareil avec bon, des diodes, des petites lumières là, qui clignotent en fonction des changements électromagnétiques qui
sont
dans l'environnement. Je pense que tout le monde qui suive un peu les histoires de chasseurs de fantômes connaissent tous cet appareil. Bon, souvent, lorsque ça se met à clignoter, les gens interprètent ça comme étant un contact avec l'au-delà. Donc, dans l'image en question, on voit donc cet appareil, ce K2, qui est placé sur un lit dans un hôpital. D'après ce que j'ai pu comprendre dans le texte qu'il m'a envoyé, c'est un hôpital de Québec. Donc, des gens qui visiblement s'intéressent à ces histoires de fantômes, de chasse de fantômes, sont allés voir un membre de leur famille qui était alité et très certainement mourant. La vidéo montre ça, donc très certainement mourant. Et l'image nous montre en gros plan ce K2. Et il y a un échange entre les gens qui sont au pied du lit et la personne qui est dans le lit. Et là, donc, on entend « Oui, tu peux aller rejoindre papa, tu peux aller rejoindre maman, etc. » Et là, les lumières clignotent. Et la personne me demandait ce que j'en pensais. Donc, je ne parlerai pas du drame que montre cette vidéo.
Non.
Là,
on comprend, oui.
On comprend que les gens étaient... C'est une situation qui est toujours très... évidemment, très touchante de voir des gens devoir faire leurs adieux à des proches. Je veux simplement me concentrer sur l'appareil lui-même, le K2. Donc, visiblement, les gens, parce que dans la vidéo, on entend également les réflexions, on entend la personne qui parle, qui dit, ben, tu peux aller rejoindre papa, tu peux aller rejoindre maman, les lumières clignotent, et là, il dit, ben voilà, les lumières clignotent sur l'appareil, il y a un contact, etc. Donc, visiblement, il interprète le mouvement de ces lumières-là ou le clignotement des lumières en fonction d'un contact avec des défunts. Donc, oublions un instant la vidéo, concentrons-nous essentiellement sur le K2. C'est un appareil dont il m'est arrivé à maintes reprises de parler, même quand je fais des conférences, c'est souvent l'appareil avec lequel je me moque le plus. Parce que cet appareil-là, c'est d'un ridicule absolu.
Ah oui?
Et là, je ne prends pas position pour les gens. Les gens sont libres de croire ce qu'ils veulent. On va essentiellement se concentrer sur l'aspect scientifique de la chose. Donc, cet appareil, ce K2, c'est un appareil qui a été développé pour détecter les variations dans les champs électromagnétiques. Et il était dans la boîte à outils des électroniciens, et principalement, là, on pense par exemple dans les années 50, 60 ou 70, quand on installait dans des hôpitaux, on installait des moniteurs ou des appareils qui pouvaient dégager de forts champs électromagnétiques. On voulait bien sûr s'assurer qu'il n'y avait pas de contamination. C'est-à-dire qu'on voulait bien être certain que les moniteurs qui étaient placés dans la chambre 23 ne fassent pas interférence sur les appareils qui étaient placés dans la chambre 24.
Oui.
Donc, on voulait s'assurer de ça. Il y avait une espèce de mise en terre de ces appareils et les responsables de la mise de l'installation de ces équipements utilisait, évidemment, c'est pas exactement comme celui que les chasseurs de fantômes utilisent, mais c'est un appareil qui avait exactement la même vocation. Donc, on s'assurait qu'il n'y avait pas de variation dans le champ électromagnétique, donc que l'appareil avait une bonne mise en terre, était bien isolé. Et puis, éventuellement, et tu vas comprendre pourquoi j'en arrive à Ghostbuster, éventuellement, donc, cet appareil-là ne servait qu'à ça. Bon, faut s'entendre, du rayonnement électromagnétique, il y en a un peu partout. Puis ton appareil de téléphone, par exemple, va émettre des champs électromagnétiques. Et d'ailleurs, c'est pourquoi, quand on était... bon, les plus vieux, hein, les vieux dinosaures comme moi se rappellent que quand on allait dans un hôpital ou quand on bien encore aujourd'hui dans les avions, on nous demande d'éteindre nos appareils portables.
Oui.
Et à l'époque, moi, je me rappelle, quand les premiers cellulaires, là, c'était très gros, là, on traînait pas ça dans notre poche. Il fallait quasiment avoir un sac à dos pour transporter ça. Ben, si on allumait notre appareil, notre téléphone dans un hôpital, ben, évidemment, les responsables nous disaient « Allez téléphoner à l'extérieur, mais vous pouvez pas allumer ça ici. » Pourquoi? Parce que le rayonnement des appareils pouvait entraîner des perturbations sur les équipements qui étaient installés dans les salles d'urgence, par exemple. Donc, il y avait ce rayonnement qui était toujours inquiétant. Et puis, bon, mais ça se limitait à un domaine assez spécifique, celui d'équipements de haute technologie qu'on installait et qui pouvait être sensible au rayonnement électromagnétique. Et puis arrive le début des années 80, en fait, arrive Ghostbuster. Et là, tu vas comprendre tout le lien. Quand arrive Ghostbuster, on décide de faire un film. Hein, c'est Ivan Reitman qui est le réalisateur. Reitman se dit, bon, ben, je vais faire un film de chasseur de fantômes. Et là, donc, il se dit, mais comment on chasse des fantômes? Il faut essayer de se trouver une idée, là. Donc, Reitman se rend à l'université l'Université de Californie à Berkeley, qui avait à ce moment-là un département de recherche en parapsychologie. Donc, il se rend sur place, il rencontre les responsables du département de parapsychologie et il leur dit... Vous faites comment pour chasser des fantômes?
Ouais, c'est bon.
D'ailleurs, ce groupe-là, le groupe de recherche de l'Université de Californie, il est bien connu des amateurs de phénomènes paranormaux parce qu'ils ont couvert un événement célèbre qu'on a appelé l'Entité. Je ne sais pas si tu as vu ce film-là,
non.
Tu as entendu parler de ça. C'est un film qui a été tourné au début des années 80, qui reprend de manière très exagérée, là. C'est vraiment, on est ici dans l'univers plus de la fiction que dans l'adaptation d'un fait réel. Mais au milieu des années 70, il y a un cas très célèbre dans le domaine de la parapsychologie où une femme qui s'appelle Doris Biter disait, une mère de 4 enfants monoparentale qui vivait dans une maison assez vétuste, juste en banlieue de Los Angeles, et elle disait être agressée sexuellement par une entité invisible. Donc, il y avait des phénomènes de poltergeist qui se produisaient chez elle. Donc, des meubles qui bougeaient, des trucs qui se renversaient. Mais le point fort de son discours, c'était de dire « Je me fais agresser sexuellement par cette entité invisible ». À l'époque, l'équipe de recherche de l'Université de Californie se sont rendus chez eux. Et ils ont mené une enquête qui a duré quelques semaines. Et puis éventuellement, bon, ils n'ont pas vraiment. C'est assez surprenant parce que c'est une histoire célèbre et pourtant aucun livre n'a été consacré essentiellement à cette histoire-là. Moi, j'en ai parlé à quelques reprises dans mes propres livres. J'ai consacré des chapitres entiers à cette histoire-là, mais on se serait attendu que des membres de l'équipe de la recherche de Californie auraient écrit un ouvrage entier sur le sujet, ce qui n'est pas
rien documenté.
Non, ils ont documenté. Il y a une documentation, okay. Je vais y revenir. Mais en fait, l'histoire, on la connaît surtout parce que, alors qu'il y avait, juste un peu avant l'affaire de Ghostbuster, un peu à quelques années plus tôt, il y avait un auteur de roman new-yorkais, qui avait écrit un ouvrage qui sur une histoire de réincarnation. Et puis, il se disait, un type qui s'appelle De Felita, là, Ray De Felita, je crois, ou quelque chose comme ça. Et il se disait, ben voilà, j'ai écrit une histoire de réincarnation. Maintenant, j'aimerais écrire une histoire de fantôme. Et ne sachant pas trop comment commencer, il avait lui aussi contacté l'Université de Californie, qui à ce moment-là avait justement débuté cette enquête sur l'affaire de Doris Biter. On est en 1975-1976 à peu près. Donc à ce moment-là, De Felita va se rendre en Californie et il va accompagner l'équipe de recherche sur place. Il va être lui-même témoin d'un ensemble de manifestations là, mystérieuses. Et il va utiliser ça pour écrire un roman. Donc, il faut se rappeler, là, on n'est plus ici dans l'adaptation d'un fait réel, on est ici dans un roman. Donc, lui, son idée, il va s'inspirer de ce qu'il a vu pour écrire son roman « The Entity ». Et son roman « The Entity », c'est lui qui sera éventuellement, au début des années 80, adapté au cinéma avec Barbara Hershey, qui joue le rôle d'une femme qu'on appelle là-dedans Madame Carla Moran, mais dans la réalité, elle s'appelait Doris Biter. Et donc, le film est très spectaculaire. On voit, le film, pour ceux qui l'ont vu, il y a vraiment des scènes très marquantes où l'actrice Barbara Hershey incarne très, très bien les événements. On la voit être frappée, poussée sur le lit, agressée sexuellement par cette entité invisible. Mais ça, c'est dans le roman de Felita. Dans les faits, moi, j'ai rencontré ces gens-là, je suis allé sur place, j'ai eu accès à leurs dossiers, aux photographies qui ont été prises, les bouts de films qui ont été tournés, il y a quelques films qui ont été tournés. Et quand je discutais avec les responsables de l'enquête, eux me disaient, et je suis assez d'accord avec eux, à partir du moment où j'ai vu le matériel qu'ils avaient colligé, les agressions sexuelles étaient un fantasme qui n'avait pas de réalité. Doris Biter était une femme qui avait des problèmes de comportement.
Ouais,
donc, okay. il y avait chez elle, il y avait réellement des phénomènes de poltergeist qui se produisaient, donc des meubles qui bougeaient, des trucs comme ça, qui ont été relativement bien documentés. Mais toute la portion d'agression sexuelle, ça, c'était un fantasme. Ça ne s'est pas produit dans la réalité. Elle racontait ça, mais ça n'a jamais été documenté. Et pour être franc avec toi, les chercheurs de l'Université de Californie n'y croyaient pas non plus. Et j'entrerai pas dans les détails, mais il y a plusieurs éléments qui permettent de croire qu'il s'agissait ici d'un fantasme. Mais on comprend que quand De Felita va écrire son roman, le sexe, ça vend bien. Donc, il va raconter une histoire de fantôme, puis il va raconter une histoire de fantôme en mettant l'accent sur l'histoire du fantôme qui agresse sexuellement sa victime. Mais ça, c'est dans le roman. Dans la réalité, c'est autre chose. Cela étant dit, ça te place un peu dans le contexte de cette équipe de recherche en Californie qui, à ce moment-là, on avance un peu dans le temps, on arrive à Ghostbusters, on est au début des années 80 à ce moment-là. Ils ont acquis une solide réputation. Ils sont connus dans le milieu comme étant l'équipe qui a couvert ou qui a enquêté sur l'histoire de The Entity, hein, l'histoire de Doris Biter. Donc, Ivan Reitman, qui va réaliser le film Ghostbusters, se dit « OK, ces gens-là ont traqué des fantômes, donc je vais aller les voir pour voir comment on s'y prend pour traquer des fantômes. » Et quand il rencontre l'équipe en question, il dit « Bon, ben, allons-y. Quand vous allez sur un lieu hanté, comment vous traquez des fantômes? C'est quoi les appareils que vous utilisez? Allez-y. » Et il est très déçu d'apprendre qu'il n'y en a pas. En fait, l'équipe, les chercheurs en parapsychologie, jusqu'à ce moment-là, ils n'utilisaient finalement que ce que tout le monde utilisait à peu près dans le milieu du paranormal, une bonne caméra, un appareil photo, puis on espère de pouvoir prendre le film ou la photo qui va être révolutionnaire. Tu comprends, on n'a pas grand-chose de plus.
Ouais.
Au mieux, dans certains cas, par exemple, des enquêteurs vont dire, ben on peut mettre de la poudre de talc sur le plancher, puis on espère que s'il y a un fantôme qui se manifeste, il va laisser des empreintes de pas dans la poudre de talc, la poudre pour bébé, tu sais. Mais ça s'arrête là, tu sais. Fait que, OK, on se dit, bon, ben... Et là, tu comprends que Ivan Reitman est un peu déçu, tu sais. Il dit, bon, je peux quand même pas faire un film de chasseurs de fantômes qui débarquent chez des gens avec dans leur poche un paquet de poudre à bébé pour les fesses de bébé, mais ça, sur le plancher, ça fonctionne pas, là. Il faut quelque chose de plus spectaculaire. Bien sûr, un appareil photo, une caméra, mais il faut quelque chose de plus extraordinaire. Et comme on n'a rien... Comme ça n'existe pas, Reitman va en inventer. Et c'est là qu'on voit apparaître les chasseurs de fantômes technologiques. Tu comprends-tu ce que... Donc,
ben oui.
À partir... Là, il y a le film, et là, on voit dans le film, Ghostbusters, évidemment, ils ont des appareils fantastiques, les appareils qui lancent des effluves, hein, le fameux rayon lumineux, des petites boîtes qui permettent à capturer des fantômes. Ils ont toutes sortes de gadgets. Mais ce phénomène-là du gadgeting va éventuellement gagner l'univers des phénomènes paranormaux et des chasseurs de fantômes. Les chasseurs de fantômes en devenir, qui sont en herbe à ce moment-là, qui voient le film de Ghostbusters, se disent « Hey, ça a l'air de fun, puis il nous faut ça aussi, il nous faut des gadgets ». Mais les gadgets n'existent pas, là. Ça a été créé pour une fiction, là. Alors on va s'en trouver. Et parmi les objets qu'on va se trouver, ben, il y a cet appareil, cet appareil qui permet de détecter des champs électromagnétiques. On se met à spéculer sur des choses qui n'existent, qui ne sont absolument pas documentées. Les chasseurs de fantômes se mettent à croire que les fantômes doivent produire des variations dans le champ électromagnétique. Ben, il n'y a aucune étude qui va dans ce sens-là. Il n'y a aucune documentation sérieuse qui prétend ça. Ils se mettent à croire qu'on peut capter des voix de fantômes. Donc, il y a toutes sortes d'éléments qui se mettent en place. Et ces éléments-là, ces pseudo-gadgets, ne sont en réalité que des appareils qui existaient déjà dans le domaine plus ou moins scientifique ou technologique, qu'on a détourné de leur vocation première pour en faire des appareils dans la traque aux fantômes.
OK.
Mais ça n'a aucune utilité, là, parce que ça ne repose sur strictement rien. Il y a, il faut-il le rappeler, il n'y a aucune documentation sérieuse qui laisse croire que les fantômes perturberaient les champs électromagnétiques. Or, des variations dans les champs électromagnétiques, on en a partout. Donc, quand la personne arrive dans une maison hantée avec son K2, et là, il se met à parler, « Fantôme, êtes-vous là? » blablabla, et on voit les lumières qui clignotent, je peux t'assurer que s'ils font exactement le même exercice dans leur sous-sol, chez eux, ils vont obtenir le même résultat. Ils vont faire le même exercice au milieu d'un champ, ils vont avoir le même résultat. Des variations du champ électromagnétique, il y en a partout. Donc, si t'es chez toi, par exemple, puis c'est pas hanté chez toi, mais tu sors ton K2, crois-moi que si tu as ton appareil de téléphone dans ta poche, puis tu le sais pas, et tu ne tiens pas compte de ça, ben ton appareil, ton téléphone portable va créer des variations dans le champ électromagnétique, et ces variations-là vont être perçues par l'appareil. Et si tu es prêt à croire que ce sont des fantômes, tu vas dire, ben tiens, voilà, ce sont des fantômes qui font ça.
Oui, l'association se fait automatiquement.
C'est ça, parce que dans le fond, parce que tu y crois, mais en réalité, ton appareil de téléphone, puis au moment où on se parle, tu dois l'avoir près de toi, ben si tu regardes, tu vas voir qu'il reçoit un signal. Ce signal-là, toi, là, au moment où tu me parles, tu ne le sens pas, ce signal-là. Ton téléphone, lui, il le ressent. Et au fur et à mesure que le signal de l'antenne relais lui envoie, bien évidemment, ça crée une variation dans le champ électromagnétique. Tu ne l'aperçois pas, mais si tu avais un appareil au côté de toi, il l'apercevrait. Et là, tu verrais soudainement, tu serais dans le studio de Radio X, tu verrais ton K2 soudainement qui se mettrait à clignoter, puis là, tu dirais, ben voilà, il y a des fantômes dans le studio. Non, c'est qu'il y a un téléphone portable, il y a une source quelque part qui reçoit un signal, et ce signal-là perturbe le champ électromagnétique. Rien à voir avec les fantômes. Mais c'est devenu un peu un objet courant parce qu'en même temps, ça ajoute du feeling. T'as pas envie d'aller dans une chasse aux fantômes, puis de t'asseoir avec une caméra installée au fond de la salle, puis là, t'attends qu'il y ait un événement qui se produise pour le filmer. Donc, on a développé ces appareils-là parce que ça fait sexy, puis ça donne... on a des petites lumières qui clignotent, qui font du bruit, des appareils, et là, on a l'impression que ça fait un peu de l'action, ça crée du mouvement, et ça rend la chasse aux fantômes plus dynamique. Mais dans les faits, là, oublions cet aspect-là de divertissement. Cet appareil-là n'a strictement aucune utilité dans le cadre d'une chasse aux fantômes. Qui plus est, son utilisation repose sur une croyance qui voudrait que les fantômes perturbent le champ électromagnétique, ce qui ne repose sur aucune documentation. Donc, si je reviens à la vidéo des gens qui sont dans la salle d'hôpital, et je suis tout à fait empathique ou sympathique au fait qu'ils sont là puis ils font leurs adieux à un proche, là. C'est pas ça la question. Mais quand ils parlent, puis ils disent « Ah, tu peux aller rejoindre maman, tu peux rejoindre papa », puis les lumières clignotent,
grosso modo,
on peut croire que ce sont des fantômes, mais on peut croire également qu'ils ont un téléphone portable à portée de main, il y a toutes sortes d'éléments, d'autant plus dans un centre hospitalier, il y a plein d'éléments qui vont émettre des ondes, des appareils, le Wi-Fi, les appareils Bluetooth, etc. Il y a plein d'éléments dans l'environnement qui créent des perturbations au champ électromagnétique qui peuvent entraîner ce genre de mouvement. Et ce qui est le plus intéressant, c'est que si tu vas, par exemple, faire une chasse aux fantômes et que tu amènes avec toi une cage de Faraday portative. Une cage de Faraday, c'est un peu comme, grosso modo, c'est un peu comme un four micro-ondes. Ça t'isole de l'environnement. Et tu prends ton appareil, ton K2, ou tu prends un appareil qui... Parce que les chasseurs de fantômes croient aussi qu'on peut capter des voix, ce qu'on appelle les PVE, le phénomène des voix électroniques. Donc, ils écoutent une espèce... Ils enregistrent, ils posent des questions. Fantôme, êtes-vous là? Qui êtes-vous? Etc. Et quand ils réécoutent la bande, on entend le bruit de fond, évidemment, de la salle, la pièce où ils ont placé le magnétophone. Là, t'entends un... Puis là, t'entends la voix qui dit « Êtes-vous là, fantôme? Parlez-nous. » Et à force d'écouter ce bruit de fond, on appelle ça le bruit blanc, on entend parfois des variations.
Le « Ah, tiens donc! »
J'entends Marcel. Je viens d'entendre Marcel. Et là, on le dit, on le communique. Hein? On dit, gars, je vais te faire entendre ça, on entend Marcel. Le fait que tu dis à ton voisin qu'il va entendre Marcel, il va entendre Marcel.
Ben, c'est un
tu
peu
viens
comme...
de le conditionner.
C'est comme les hallucinations auditives dans les chansons, par exemple.
Tout à fait. Donc, à partir du moment où tu écoutes cette pièce musicale, puis là, on a l'impression que, je sais pas, moi, Paul McCartney dit Palmolive et Ivory, ben là, tu entends Palmolive et Ivory, bon, etc. Tu sais, dans une pièce avec Michael Jackson, là, qui est une hallucination auditive bien connue. Là. C'est bon. Bon, tu as des trucs comme ça. À partir du moment où tu dis à quelqu'un qu'il doit entendre quelque chose, il va entendre ça. Ce que la littérature ou ce que les chercheurs sérieux disent, si vous croyez avoir entendu un PVE, un phénomène comme celui-là, d'abord, avant de conclure que c'est l'eau de l'œil, il faut se rappeler que ces appareils-là, d'ailleurs, on est à la radio nous-mêmes, donc les ondes de la radio sont transmises. Les gens qui nous écoutent dans leur voiture, il faut bien qu'ils captent l'onde quelque part, tu comprends? Donc, ces ondes, elles circulent dans l'air. Ben, même si tu es dans une maison hantée, les ondes circulent pareil. Là, les ondes de Radio X n'arrivent pas aux côtés de la maison hantée en disant « Oh, plus de maison hantée ici, on n'y ira pas », tu comprends? Donc, les ondes vont rentrer. Et si tu as un appareil qui est sensible, ben, ça se peut que de temps en temps, il va y avoir des perturbations dans le bruit blanc qui peuvent provenir de transmissions qui viennent d'ailleurs. Et incidemment, les chasseurs de fantômes utilisent un appareil ridicule aussi qui s'appelle le Ghost Box. Le Ghost Box est rien de plus qu'un balayeur, un scanner, qui balaye les longueurs d'onde. Mais crois-le ou non, cet appareil, c'est tellement ridicule que cet appareil, il balaye les longueurs d'onde qui sont utilisées soit par les radios commerciales ou par les radios domestiques, okay. Les systèmes de communication domestiques, comme par exemple un moniteur à bébé ou des walkie-talkies ou des trucs comme ça. Donc, c'est normal. Si l'appareil fait un balayage, ben, ça se peut qu'à un moment donné, tu entends un Marcel, Bob, Joe. Mais la question que tu dois te poser, c'est est-ce que c'est l'au-delà qui me parle ou est-ce que c'est des animateurs à Radio X qui parlent? Tu comprends?
Ben oui.
Donc, il y a tout un travail qui doit être fait en amont, un travail d'approche rigoureux. Les scientifiques, d'ailleurs, disent, si vous croyez avoir capté un PVE, un phénomène de voix électronique, ne dites pas aux gens à qui vous allez le faire entendre ce qu'ils doivent entendre. Faites-leur entendre, tout simplement, en disant, est-ce que toi, t'entends quelque chose là-dessus? Et comparer ce qu'ils entendent. Vous allez peut-être être surpris de découvrir qu'ils n'entendent pas du tout la même chose que vous. C'est intéressant aussi de le faire entendre à des gens qui parlent une autre langue. Hein? Par exemple, tu es dans un endroit à Québec, tu crois avoir capté un PVE, fais-le entendre à des gens, par exemple, dont la langue maternelle est l'espagnol. Ils vont peut-être entendre des choses dans leur propre langue maternelle que toi, tu n'as pas entendu. Tu comprends? Donc, on voit que c'est très sujet à interprétation. Donc, il y a toute une démarche qui doit être faite. Et là où j'en venais avec ma fameuse cage de Faraday, si tu amènes dans un lieu soi-disant hanté une cage de Faraday, donc un appareil qui est bien isolé de l'environnement, et tu mets un codeux à l'intérieur, ou que tu mets un appareil d'enregistrement, ou un ghost box, ou peu importe, ben le résultat est nil. Tu n'entendras rien, tu ne capteras rien, tu ne verras rien. Ça veut dire que les fantômes sont isolés par la boîte de Faraday. Donc, déjà là, on a un indice qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Tu comprends? Dans une démarche sérieuse, tu te dis, il y a quelque chose qui ne va pas. Là. Quand mon appareil est isolé et il ne reçoit pas de perturbations qui viennent de l'extérieur, qui pourraient provenir soit d'une radio domestique, qui pourraient revenir d'un système de communication, ben tout s'arrête. Ça se met à plat. Donc, déjà là, on a un bon indice. Donc, je respecte les gens qui font de la chasse aux fantômes de manière divertissement. Là où j'ai un peu un problème, c'est quand je vois... Puis en même temps, il ne faut pas se le cacher, là, le fait d'utiliser des appareils donne un sentiment de scientifique. Hein, dans notre société, qui utilise des appareils, ben, ce sont des scientifiques. Donc, le chasseur de fantômes qui va utiliser des appareils dans un soi-disant lieu hanté, il a l'impression de faire de la science. Mais c'est pas parce que tu utilises un appareil que tu fais de la science pour autant. C'est pas parce que j'ai un marteau entre les mains que je deviens soudainement un menuisier. Là. Tu comprends? Donc, il faut faire attention avec ça. Mais l'argumentaire, il est simplement là. Ce type d'appareils ne sont pas utilisés de la manière dont ils ont été conçus, ils ont été détournés de leur objectif premier, et ensuite de ça, ils reposent sur des interprétations qui ne reposent sur aucune documentation sérieuse et rigoureuse. Donc, à partir du moment où on est dans une maison hantée, on a un soi-disant codeux qui se met à clignoter, ben, si vous voulez croire que les fantômes vous parlent, parfait, mais en même temps, sur le plan de la science, il y a mille et une raisons qui peuvent expliquer pourquoi un codeux se met à clignoter sans pour autant faire intervenir l'au-delà.
Donc, fiable, pas tant. c'est ce qu'on comprend.
Pas tant, non. Ouais, c'est ça. Non, c'est ça. Peut-être pour installer un moniteur, mais ouais, pour parler aux fantômes, je pense qu'il faudra repasser. Ou on va repasser avec autre chose.
Courte pause, Christian Page. Au retour, plusieurs autres sujets en lien avec le paranormal. Entre autres, l'intelligence artificielle qui est en train de tuer le paranormal.
Oui, effectivement. Donc, je te reparle de ça après la pause. On me pose la question, est-ce que l'intelligence artificielle va tuer ou est en train de tuer le paranormal? Donc, je t'en reparle après la pause.
Très intéressant. Bougez pas. C'est les Radio X-Files sur les ondes de choix 98h Radio X.
Radio X-Files.
Execute program.
Avec Christian Page.
Radio X. Ray, the sports. Dans Morey Live.
Tout le monde ensemble.
Et Will est en direct. Ray, the sports.
Radio X.
Présenté par Unicanva.
Chez nous, vous aurez une variété de produits hors du commun. Toit rigide en acrylique, verrière, auvent rétractable ou mur sur rouleau. Unicanva avec un S.com.
Pour l'achat de votre spa, c'est le moment d'aller chez Club Spa. C'est présentement la grande vente du manufacturier Arctic Spa. Des rabais exceptionnels sur tous les spas en inventaire. Faites vite, premier arrivé, premier à économiser. Club Spa, une entreprise familiale depuis 45 ans. Livraison partout au Québec.
Les vacances approchent. Louez votre boîte de toit chez Rack Évasion. Barre de toit, support à vélo, tente de toit. Découvrez le plus grand choix à voir et essayer sur place. Installation et conseils d'experts. Rack Évasion, 1240 Charest-Ouest à Québec. RackÉvasion.ca.
Aujourd'hui, l'actualité est triste. Guerre, inflation, politique. Mais les propriétaires de Mitsubishi semblent sereins. Pour en savoir plus, nous avons demandé à Marie, propriétaire d'une Mitsubishi, comment faites-vous pour être aussi détendue en ce moment?
Avec la garantie de 10 ans de Mitsubishi sur le groupe motopropulseur, je m'inquiète pas pour les réparations.
10 ans, vraiment?
Oui, ou 160 000 km.
Sur quel modèle?
Tous.
Puis vous allez me dire qu'on peut aussi louer sans mise de fonds?
Eh bien, oui.
Enfin une bonne nouvelle.
Rendez-vous chez vos concessionnaires Québec et Sainte-Foy Mitsubishi dès aujourd'hui.
Cette semaine chez Maxi, on célèbre fort avec un max d'économies pour la Saint-Jean. Les fraises à 2,99 $, la mayonnaise Mag à 5 $, le bœuf haché mi-maigre à 4,99 $ la livre, 11 $ le kilo. Bonne Saint-Jean. Plus de détails en circulaire et chez Maxi.
Chez Sport Expert et Atmosphère, jusqu'à dimanche, achetez vos essentiels de l'été. Obtenez 25% en carte promo à l'achat de 125 $ juste à temps pour célébrer papa. Détail en magasin. Sport Expert d'ici.
Allô, c'est Marie de l'entrepôt de la Réno. Pourquoi payer plus cher pour le même projet de Réno? Nos produits sont jusqu'à 50% moins chers qu'ailleurs. L'entrepôt de la Réno, on livre partout au Québec.
Chez Lexus, le souci du détail est présent à chaque étape et dans chaque moment de votre expérience. Faites l'expérience de la précision durant l'événement exclusivement vôtre de Lexus. De l'accueil chez le concessionnaire jusqu'aux performances distinctives de Lexus, chaque détail est conçu pour durer. Contrairement à ses offres.
L'événement exclusivement votre Lexus est en cours. Louez votre nouveau véhicule Lexus pour 24 mois à un taux aussi bas que 1,9%, incluant une réduction de 1% du taux à l'événement. Contactez votre concessionnaire Lexus dès aujourd'hui.
Golf Lobinière, un club, trois parcours. Profitez de notre offre table d'hôte pour deux personnes à seulement 65 $, incluant entrée, plats principaux et bouteilles de vin. Golf Lobinière, l'excellence à prix abordable. Saint-Gilles, sortie 305 de l'autoroute 20 à 15 minutes des ponts.
Le drink parfait pour tes parties d'été, c'est la gin grilla de Stadacone. Un prêt-à-boire éclaté, fruité et pétillant qui donne le goût de soleil à chaque gorgée. Savourez nos quatre saveurs rafraîchissantes. Rouge, blanche, rosée et tropicale. Fait à base de gin Stadacone et de vrais jus de fruits, c'est l'un des prêts-à-boire qui contient le moins de sucre sur le marché. Gin grilla est la boisson parfaite pour toutes les occasions et elle fait lever le party à tous les coups. Disponible à la SAQ. Santé!
C'est le retour de Shinedown avec la tournée Dance Kids Dance Act 2. Le party continue le 15 juillet au Centre Vidéotron avec invités spéciaux Coheed and Cambria et From Ashes to New. Shinedown, billets en vente maintenant sur gestef.com et ticketmaster.ca.
Un Ford, ça se déjà.
Pourquoi attendre? Votre prochain Ford est déjà en inventaire chez Desjardins Ford. Profitez jusqu'à 8 000 $ de rabais sur le F-150 2026, jusqu'à 5 500 $ sur le Bronco Sport 2026 et recevez jusqu'à 1 250 $ en crédit d'accessoires sur plusieurs modèles. N'attendez pas, nos véhicules sont disponibles maintenant et la livraison est rapide.
À Québec, un Ford, ça se
Un Ford, ça se prend chez Desjardins Ford.
175 rue du Marais.
Vieux frigo, congélo, climatiseur, ils ont l'air inoffensifs. Pourtant, leurs gaz peuvent être nocifs s'ils sont mal recyclés. Pardon. Certains gaz sont plus dommageables que d'autres. Go Recycle, recycle vos vieux appareils réfrigérants.
T'es le collectionneur non assumé? Des souvenirs, des boîtes et des objets qui s'accumulent dans le sous-sol, le bureau et même le salon? Chez Mini Entrepôt Space, tu peux tout garder sans encombrer ton quotidien. Bonne nouvelle! Mini Entrepôt Space est maintenant ouvert à Québec. 3 succursales, Québec, Trois-Rivières et Sherbrooke. Peu importe tes besoins en espace, on est là pour toi. Appelle-nous, mini-entrepôt-space.com.
La soudure chez Can-Am, c'est essentiel. FCAW ou GMAW, ton talent donne forme à des structures d'envergure. Ici, tu travailles avec des outils adaptés, dans un environnement sécuritaire, stimulant et surtout avec une équipe solide et fière. Horaire de nuit du lundi au jeudi, prime de nuit, vêtements fournis et carte CWB possible sur place. Can-Am recrute des soudeurs. Fais partie de l'alliage. www.canam.com.
Notez que l'émission d'aujourd'hui est une rediffusion. Veuillez ne pas tenir compte des numéros de téléphone, dates et concours dans le prochain segment.
Radio X Files
avec Christian Page.
Radio X.
On est de retour dans les Radio X-Files, édition de cette première journée du mois de mai qui, selon la tendance, a plus l'air d'une première journée du mois de novembre, mais on va finir par arriver à l'été tranquillement. Et juste avant la pause, Christian Page, tu nous soulevais l'idée d'un auditeur qui disait « Est-ce que l'intelligence artificielle va finir par tuer le paranormal? »
Oui, une question qui est très intéressante oui. Et qui mérite d'être réfléchie. Je viens de te faire un aparté. Juste avant la pause, on a parlé aussi de cette chasse aux fantômes.
Oui.
J'ai mentionné l'ouvrage de Philita qui parlait de The Entity. Et donc, je suis allé voir durant la pause. L'ouvrage est sorti en 1978 et c'est signé par Frank de Philita. Je cherchais tantôt le prénom de l'auteur. Là, c'est Frank. Donc, Frank de Philita, 1978, The Entity, qui est basé sur l'investigation menée okay. par les chercheurs de l'Université de Californie dans le cas de Doris Biter.
Très bien.
On revient, on revient à notre histoire d'intelligence artificielle. Est-ce que l'intelligence artificielle est en train de tuer le paranormal? Ben, malheureusement, la réponse, à mon avis, elle est oui.
Ah oui?
Elle est oui parce que... C'est-à-dire que c'est très difficile de pouvoir documenter le paranormal. On s'entend bien avec ça. Et ça a toujours été la même chose. Hein, le paranormal, puis on le voit, on fait souvent des blagues. Le paranormal, c'est la foire aux photos floues. Hein, on a l'impression oui. que plus la photo est floue, mieux que c'est. Bon, il y a une difficulté à documenter le paranormal. Même en première partie d'émission, quand on parlait de des chasseurs de fantômes qui utilisent des appareils, si on enlève tout ça, reste que essentiellement sur une démarche scientifique, c'est très difficile de documenter le paranormal. Ce sont des phénomènes qui sont souvent très ténus, très spontanés, donc ça devient très difficile de les documenter. Et on doit, si on voulait documenter ces phénomènes, on devait éventuellement se reposer sur des preuves. Et encore là, quand je me dis preuve, on les met entre guillemets sur des évidences qui étaient souvent très sujettes à caution ou très sujettes à interprétation. Donc des photographies, des bouts de films, etc. Malheureusement, avec l'avènement de l'intelligence artificielle, tous ces éléments-là, parce qu'à une époque, si on fait un peu sans retourner à l'époque de Mathusalem, là, on se rappelle, bon, par exemple, avant les années 80, par exemple, les gens avaient des appareils argentiques, un appareil photo argentique. Donc, ils disaient, voilà, j'ai photographié un ovni, j'ai photographié un fantôme, etc. L'enquêteur qui se rendait sur place pouvait, bon, la bonne démarche de l'enquêteur, c'est pas tous les enquêteurs qui le faisaient, mais la bonne démarche de l'enquêteur, c'est toujours de se dire, bon, avoir une oreille bienveillante, à l'écoute des gens ou des témoins, et ensuite, c'est le doute systématique. Comme le font d'ailleurs les bons scientifiques. Hein. On a trop tendance à oublier que quand un scientifique émet une hypothèse, à partir du moment où il émet une hypothèse ou une théorie, plutôt une théorie plus qu'une hypothèse, son travail ensuite n'est pas de prouver que sa théorie elle est bonne, mais de prouver qu'elle est fausse. Et s'il peut démontrer que sa théorie est fausse, il sait qu'elle est elle n'est pas viable, tu comprends? Donc, à partir du moment où tu dis, bon, ma théorie est la suivante, peu importe si je mets ma main sur un rond de poêle brûlant, je vais me brûler. Voilà ma théorie. Mais je refais l'expérience, je me brûle à chaque fois, donc ça, c'est ma théorie. Je vais ensuite travailler à prouver l'inverse. Et si je ne peux pas prouver l'inverse, ben là, je saurai que ma théorie, elle est fiable. Et on doit appliquer la même démarche lorsqu'on enquête sur des phénomènes paranormaux. D'abord, l'écoute bienveillante. Les gens ont des choses à dire, écoutons ce qu'ils ont à dire. Mais une fois qu'ils ont raconté leur histoire, je dois essayer de prouver que ce qu'ils disent est faux. Et à partir du moment où je pourrais démontrer que j'ai d'autres explications alternatives, ben je devrais adhérer à ces explications. Parce que dans l'univers du paranormal, on n'arrive jamais avec une réponse dans l'absolu. On doit toujours travailler en partant de l'hypothèse la plus vraisemblable vers l'hypothèse la moins vraisemblable. Donc, si quelqu'un dit, ton voisin te dit, écoute, Nick, je crois avoir vu un OVNI, c'est possible qu'il ait vu un engin venu d'une autre planète. Mais toi, ta démarche, c'est de dire, est-ce que cette hypothèse-là est la plus vraisemblable? Bien sûr que non. La plus vraisemblable, c'est qu'il ait confondu un ballon, la planète Vénus, un avion. Ce sont des hypothèses qui sont plus vraisemblables. Donc, tu dois aller à décanter ces hypothèses-là. Et à partir du moment où tu peux les éliminer, tu dis, OK, c'est sûr que c'était pas simplement le dire, parce que souvent, tu entends les gens qui s'intéressent aux ovnis qui disent, ah, c'est sûr que c'était pas un avion, c'est sûr que c'est pas un hélicoptère. As-tu fait la démarche là, pour t'assurer de ça. C'est pas rien que de le dire parce que le témoin dit que ça allait trop vite pour être un avion. Toi, comme travailleur, comme enquêteur, tu dois dire, c'est pas parce que le témoin me dit que c'était pas un avion que moi, je dois conclure que c'était pas un avion. Je dois faire la démarche pour ça. Donc, tu pars de l'hypothèse la plus vraisemblable vers l'hypothèse la plus invraisemblable, mais qui n'est pas forcément impossible, mais qui reste quand même moins vraisemblable, comme par exemple un fantôme ou un vaisseau spatial extraterrestre, peu importe. C'est la démarche qu'on doit faire. Donc, à une époque, on avait des appareils argentiques. Les gens nous disaient, bon, ben voilà, j'ai vu un ovni, je l'ai photographié, ou un fantôme, peu importe. La démarche de l'enquêteur, c'était d'écouter ce que le témoin avait à dire, essayer de trouver une explication alternative. Et s'il y avait une preuve, dans le cas d'une photographie, par exemple, on demandait à voir le négatif. Donc, on avait le négatif, puis pas seulement le négatif de la photo, mais on voulait avoir toute la bande de négatifs. Parce que tu comprends bien que si quelqu'un a photographié une soucoupe volante, par exemple, qui est un trucage, on suppose qu'il aura pris plus d'une photo et que la photo qu'il te montre, c'est la meilleure. Donc, il n'a pas forcément réussi à chaque coup, tu comprends? Donc, si tu vois la photo, tu risques de voir trois photos avant la même soucoupe volante prise sous différents angles, puis trois photos après la même soucoupe volante prise sous un autre angle. Donc, tu pourras conclure qu'il devait s'agir sans doute d'un petit modèle suspendu, puis que le témoin est en train de te compter des bobards. Mais si, juste avant, on a une photo de son petit garçon en train de jouer au ballon, et la photo suivante, ben on a sa voiture dans le garage, le type n'a pris qu'une seule photo, et c'est la fameuse photo de l'OVNI, ben là, tu peux te dire, ben la photo, elle fait partie d'un groupe d'une seule photo. Si c'est un trucage, il a fait qu'une seule photo, puis il a bien réussi son coup. Donc, il y a toute une démarche autour de ça. Donc, on avait accès au négatif. Et puis, à partir du moment où on avait arrivé l'appareil numérique, bien là, ça devenait plus difficile parce qu'évidemment, c'est une image numérique. Puis en même temps, on arrive avec des logiciels de retouche. Donc, la personne peut prendre une photographie numérique, la télécharger dans son ordinateur, y faire quelques retouches et voilà, il la met sur les médias sociaux. Voilà, c'est un fantôme, un ovni, etc. Donc, encore là, l'enquêteur n'était pas nécessairement dans un cul-de-sac, mais ça demandait une expertise plus approfondie. Donc, il fallait se rendre sur place, rencontrer le témoin, écouter son témoignage, et ensuite, on devait demander avoir accès à la carte de données de son appareil photo. Parce que dans le cas de photographies qui sont prises sur un appareil numérique, il y a des métadonnées qui sont là, que toi, tu ne sais pas, mais ta photo, si moi, je regarde ton appareil photo, encore une fois, je peux voir quelles sont les photos en allant dans ton historique de photographie. Je peux voir les photos que tu as prises avant, les photos que tu as prises après, et je peux voir si tu en as effacé. Par exemple, une photo qui porte le numéro 23, et soudainement, tu arrives à la photo de ton OVNI, puis la photo de l'OVNI, c'est le numéro 32. C'est-à-dire, qu'est-ce qui est passé entre la photo 25 et la photo 32? Ouais. Tu vas me dire, c'était ma blonde en sous-vêtements, fait que je les ai effacés, mais quand même, il y a un doute, il y a un point d'interrogation qui se soulève. Donc, et les métadonnées me permettent de savoir également si tu, à tout le moins, je peux savoir à quelle heure il était, à quel moment tu as pris la photographie. Donc là, il y aura une métadonnée qui me dira, la photo a été prise, par exemple, le 1er mai 2026 à 18h15. Donc, je pourrais avoir cette information. Donc, mais ça devenait plus difficile, on le comprend, parce que les mécanismes de retouche, quand on retouchait une photo, Si j'ai pas accès aux métadonnées et que je peux pas voir ce qui est dans ton appareil photo, que je n'ai qu'une photo qui circule dans les médias sociaux, c'est à peu près impossible de déterminer si la photo n'a pas été retouchée ou non. Les experts pouvaient toujours, en regardant une photo, prendre la photo et regarder si les pixels de l'image correspondent. On peut toujours, des experts en informatique, peuvent toujours, en analysant une photographie de ce type-là, pouvoir déterminer si éventuellement il y a eu une retouche, même si c'est une retouche numérique sur l'appareil, sur la photographie en question. Mais maintenant, avec l'intelligence artificielle, ça va devenir quasi impossible de faire ça. Aujourd'hui encore, en intelligence artificielle, si on regarde là, de manière sociale, on a commencé beaucoup à en parler depuis 2-3 ans seulement. Et on est passé, là, en quelques années, là, on est passé d'une image, par exemple, d'un Michael Jackson qui mangeait du spaghetti, je crois, qui était pas très bien réussi. On voyait qu'il y avait intelligence artificielle. À des images, 2 ou 3 ans plus tard, à des images qui sont tout à fait confondantes. Là. Si tu vois une image, puis tu es plus capable de déterminer si c'est de l'intelligence artificielle ou si c'est la réalité. Alors, si on suit cette courbe, ben, tu t'imagines que dans 4 ou 5 ans, la qualité de l'intelligence artificielle va être telle que on ne sera plus en mesure de pouvoir déterminer si une image ou un film provient d'une véritable caméra, d'un élément que tu aurais filmé avec ton téléphone portable ou d'une photographie que tu aurais pris avec ton appareil portable. Ça va devenir à peu près impossible de faire ça. On devra essentiellement s'en remettre aux témoignages. Et malheureusement, les témoignages, c'est le maillon faible d'une investigation. Parce qu'on le sait, je l'ai souvent évoqué, même je sais que ça peut rebuter des gens d'entendre ça, mais devant l'inconnu, on est tous identiques. Donc, quand on entend des témoignages, puis on nous dit « Ouais, un pilote d'avion a vu un truc étrange, mais c'est un pilote d'avion, donc il devait savoir... » Non, ça vaut rien, ça. À partir du moment où on ne sait pas ce que l'on observe, qu'on soit pilote d'avion ou chauffeur de taxi, on ne peut pas déterminer quelle est toutes nos évaluations, pardon, en termes de distance, de vitesse, etc., peuvent être erronées. Alors, si le pilote d'avion, il voit un autre avion, un autre chasseur, ou un pilote d'avion commercial, par exemple, il voit un Airbus 320, il sait à quoi ressemble un Airbus 320. Donc, à partir du moment où il voit par le cockpit de l'avion, il peut déterminer que l'Airbus 320 qu'il voit se trouve à 10 ou 15 km. C'est un appareil qu'il connaît. Mais s'il est en plein ciel, de nuit, puis il voit une lumière, une simple lumière, ben, il sait pas ce que c'est, là. Il a beau être pilote d'avion, il sait pas ce que c'est. Donc, la lumière est-elle à 2 km ou est-elle à 15 km? Et à partir du moment où il est incapable de la situer, ben, un objet qui, tu comprends que un objet qui traverse l'horizon devant toi, mais qui se trouve à 1 km de distance, va mettre beaucoup moins de temps que s'il se trouve à 50 km. Mais si toi, tu penses qu'il est à 50 km, puis que l'objet traverse le ciel en 3 secondes, ben, tu dis, tabarnouche, il devait voler à 100 000, 1000 km à l'heure. Tu comprends? Donc oui. Là, tout est erroné. Tout est erroné. Et qu'on soit un pilote ou un chauffeur de taxi, toutes les études, je le dis bien, là, toutes les études unanimement montrent que devant l'inconnu, nous sommes tous égaux. Donc, à partir de là, toutes les évaluations risquent d'être, doivent être prises avec des pincettes, comme on dit. Donc, à partir du moment où on aura de ces images qui vont être générées par intelligence artificielle et qu'on ne sera plus capable de déterminer si l'image, elle est authentique ou non, on devra s'en remettre au témoignage. Mais malheureusement, le témoignage étant le maillon faible de la chaîne, bon, on va se retrouver dans une espèce de vide où on ne pourra plus déterminer quelle est l'objectivité ou la réalité du phénomène qui est rapporté. Donc, malheureusement, si on se pose la question, est-ce que l'intelligence artificielle est en train de tuer le paranormal? La réponse est oui. Et j'irai même plus loin, je te dirais que ça a déjà un peu commencé. On a des émissions de télé, par exemple, où on nous avoue, hein, la production avoue spontanément, là, on le voit à la fin de l'émission, je pense notamment à un truc qui s'appelle Hunting in New Orleans ou un truc comme ça, où on nous montre pour le divertissement, donc on suit un peu comme des chasseurs de fantômes, où on raconte une histoire de fantômes, et là on nous montre comme des faux films tournée, par exemple, qui donne l'impression du... C'est ce qu'on appelle le fine footage, là, des images un peu retrouvées. Là. Donc, on a une image tournée un peu maladroitement avec ce qui semble être un téléphone portable ou une caméra à l'épaule mal placée qui nous rappelle les meilleures années de Musique Plus. donc ça bouge de toutes parts, tous côtés. Mais au moins, quand on regarde cette émission-là, qui est une émission de 2024, à la toute fin, on nous dit tout ce que vous avez vu, c'est tout de l'IA, c'est tout monté, c'est tout inventé. Mais tu restes accroché à l'émission pendant 50 minutes, puis si tu décroches avant la fin de l'émission, ben tu auras l'impression que tu as vu des images qui témoignent de la réalité de l'événement, alors que c'est de la pure invention, c'est de la pure fiction. Donc déjà là, on a des émissions de télé diffusées sur des chaînes aux États-Unis, des chaînes spécialisées, où on nous montre des images qui sont entièrement générées par l'intelligence artificielle et qui sont présentées dans le cadre de pseudo-investigations dans des lieux hantés. Donc, il n'est pas loin là, le moment où on ne pourra plus du tout faire la différence entre les deux. Et je te dirais même que n'eût été cette décence des réalisateurs de cette série, là, comme je te dis, je crois que c'est Hauntings New Orleans, si n'eût été de leur décence de mettre à la fin de l'émission ce petit bandeau disant que tout ce qu'on a vu là-dedans, c'est la foutaise, ben on y croirait. Moi-même, je regarderais ça, je me dirais, ben voilà, c'est bien possible.
Oui, tout à fait.
Ça se répercute au-delà du paranormal. Moi, le matin, une des premières choses que je me fais, c'est une espèce de petite revue de presse. Avant de commencer ma journée, que je sois à la radio, à la télé, peu importe, j'aime bien savoir c'est quoi l'actualité.
C'est passé, oui.
Oui, parce que tu sais, en même temps, si tu es à la radio ou à la télé, tu ne veux pas qu'un collègue te pose une question et tu dis « Ah, je ne suis pas au courant. Il y a une guerre en Iran. Oh, pas au courant. » Donc, à partir du moment, je me fais une petite revue de presse. Et souvent, quand je me fais cette revue de presse, il y a parfois des clips, des images, de nouvelles. Et je dois t'avouer que j'en suis rendu à un stade où je me mets à douter de tout. Tu sais, on nous dit, évidemment, avec un Donald Trump à la Maison-Blanche, on peut s'attendre à n'importe quoi, mais des fois, c'est tellement gros que tu dis, voyons, je peux pas croire ça. Je peux pas croire que Donald Trump, par exemple, s'est endormi en plein milieu d'un point de presse. Et là, tu vois l'image, puis là, tu le vois qui est en train de roupiller alors que ses conseillers sont derrière lui puis parlent aux médias. Tu dis, c'est tellement gros que c'est sûr que c'est une image qui est générée par l'IA. Et bon, parfois, tu découvres que oui, et malheureusement, parfois, tu découvres que non. Mais bon, c'est la réalité. Mais tout ça pour te dire qu'on en est rendu à un stade que même dans notre quotidien, dans une actualité, qu'elle soit d'ordre sportif, politique, économique, on voit des trucs puis on se dit, coudonc, c'est-tu vrai ou c'est-tu pas vrai? Alors imagine-toi, quand on en est rendu à parler de fantômes, d'ovnis, etc., ça devient excessivement laborieux. Donc ma réponse à cette question, c'est oui. Je ne vois pas dans 10 ans, partir de ce que l'on voit aujourd'hui de l'intelligence artificielle, si j'extrapole dans 10 ans, j'aurais probablement pris ma retraite à ce moment-là, mais je me demande comment les nouveaux enquêteurs qui vont s'intéresser aux phénomènes paranormaux vont réussir à faire le tri entre ce qui est vrai et ce qui est faux. On va être tellement inondé d'informations qui auront été manipulées qu'on ne sera plus capable de faire la différence.
Il va falloir être très, très, très attentif.
Oui.
Mais
vas-y.
Il y a des photos, même des vidéos, on s'aperçoit encore que c'est l'intelligence artificielle. Dans les chansons aussi, il y a quelque chose qui est encore perceptible.
Mais dans 10 ans,
aucun doute.
C'est comme à la vitesse que ça se développe. Et même, je lisais des articles cette semaine, il y a des spécialistes, des programmeurs qui, d'abord, sonnent l'alarme autour de ça, hein, la place que tient l'intelligence artificielle. Il faut apprendre à la contrôler. L'intelligence artificielle est un extraordinaire outil, mais il faut apprendre à le contrôler. Hein. Donc, il faut mettre l'intelligence artificielle au centre et les humains autour pour le contrôler. Mais ça reste un outil extraordinaire. Mais si on ne le contrôle pas, évidemment, il risque éventuellement de prendre le contrôle sur plein de choses qu'on ne voudrait pas qu'il prenne le contrôle. Mais à la vitesse que tout ça se développe, c'est vrai que ça devient très inquiétant. Si on ne développe pas, nous, en revanche, des outils pour essayer de, non pas de le contrecarrer, parce que quand même, l'intelligence artificielle, c'est notre création, donc, mais plutôt d'essayer de mieux le comprendre, ça va devenir effectivement très difficile.
Ça nous prendra des outils créés par l'intelligence artificielle pour détecter
l'intelligence artificielle. Voilà un peu, ça devient un peu paradoxal, mais c'est un peu ça. Écoute, je vois qu'il nous reste 4-5 minutes. Il y a une question qui m'a été posée cette semaine, puis je trouvais intéressant d'y répondre. Quelqu'un qui écoute l'émission régulièrement me dit, à vous écouter parler, M. Page, je suis toujours prêt à croire les autorités. Hein? Les autorités ont dit ceci, les autorités... Mais à chaque fois qu'il y a des sonneurs d'alerte, et en particulier dans le domaine des ovnis, vous êtes toujours en train de dire, bah, c'est de la foutaise. Et pourquoi est-ce que vous croyez toujours les autorités et pas les sonneurs d'alerte? Mais en fait, et en particulier dans le cas des ovnis, puis c'est une question qui est tout à fait justifiée, mais en fait, la réponse, elle revient un peu à ce que l'on disait quand on parlait de cette intelligence artificielle, d'apprendre à faire preuve d'un certain sens critique. Quand il est question, et en particulier des ovnis, moi, je regarde les sonneurs d'alerte. Ils ont des discours qui sont souvent très fantastiques, mais jamais rien pour le prouver. Hein. Je suis allé dans une base militaire, il y avait des soucoupes volantes, j'ai vu des cadavres d'extraterrestres, j'ai pas de photo à vous montrer, j'ai pas de film à vous montrer, j'ai pas un échantillon de la soucoupe volante à vous montrer. Bref, ils ont rien. Ils ont des histoires qui sont souvent très fantastiques, mais aucun élément pour l'appuyer. Et d'un autre côté, et c'est un peu ce que je disais tantôt, on doit aller du plus vraisemblable vers le moins vraisemblable. En ajoutant que le moins vraisemblable ne veut pas dire que c'est pas possible ou que c'est faux. Mais évidemment, j'ai d'autres explications alternatives. Donc, j'ai un type qui me raconte une histoire tout à fait fantaisiste. Et de l'autre côté, j'ai des autorités qui me disent « Non, ce type-là n'a pas vu des ovnis dans un hangar. Ce qu'il a vu, il a inventé cette histoire-là. Ou ce qu'il a vu, c'est des débris d'un satellite ou peu importe. » Je dois essayer de prendre position. Et ma position, c'est, je vais toujours, évidemment, en essayant de jouer ce qu'on appelle le bon père de famille, je vais toujours, bien sûr, favoriser l'explication plus rationnelle que l'explication la plus extraordinaire. Il y avait un astronome bien connu là, qui a marqué beaucoup les années 70 et les années 80 qui s'appelle Carl Sagan. On prête souvent à Carl Sagan une citation qui dit « À une affirmation extraordinaire, on va demander une preuve extraordinaire. » Je ne suis pas convaincu que c'est Sagan qui avait dit ça le premier. Je pense que c'est Arthur C. Clarke qui l'avait dit en premier, mais néanmoins, ça traduit bien la pensée. À une affirmation extraordinaire, on va demander une preuve extraordinaire. Donc, si toi, tu me dis, Nick, j'ai chez moi une soucoupe volante, ben, et qu'en même temps, tu me dis dans un même souffle que tu es allé faire ton épicerie chez IGA, je vais te demander, dans le discours fantastique, faire son épicerie chez IGA là, sur une échelle de 1 à 10, c'est peut-être 1. Donc, ma demande de preuve va être au niveau de 1. Et généralement, ta parole va me suffire. Je ne te demanderai pas à avoir la facture de IGA, le sac d'IGA. Si tu me dis que je t'allais faire mon épicerie chez IGA, m'a dit parfait, Nick, je te crois. Tu comprends? Parce que ce que tu m'affirmes est assez banal. Donc, je vais me contenter d'une explication ou d'une preuve banale. Et la preuve banale, c'est ton propos. Mais si tu me dis que j'ai une soucoupe volante chez moi, oh! Là, on vient de passer de 1 à 10. Là. Au niveau des discours extraordinaires, tu es passé à 10. Mais je vais te demander une preuve digne d'un 10.
Oui, je comprends.
Et malheureusement, les sonneurs d'alerte ne l'ont jamais, cette preuve-là. Et ensuite de ça, quand on regarde, et en particulier dans le cas des ovnis, pour croire ce discours-là, c'est de faut absolument croire qu'il existe une conspiration telle que tous les gens qui ont été impliqués, parce que le type dit, bon, il y avait une soucoupe dans un hangar avec des extraterrestres, on s'imagine qu'il n'a pas été tout seul à rentrer dans le hangar. Il y a plein de gens qui devaient travailler dans le hangar, des techniciens. Et depuis des années, si on prend, par exemple, dans la mythologie ovni, souvent on parle de Roswell. Ben, tu dis, ben, Roswell, c'est 1947. Donc, de 1947 à 2026, ça veut donc dire pendant, quoi, 70 ans, on n'a rien. Personne n'a parlé. Pendant 70 ans, des centaines, des milliers de gens ont pu passer par ce hangar-là, ont travaillé dans ces hangars-là. On n'a jamais vu une photo, un film sortir, rien du tout. Donc, il y a une espèce de complot qui implique des centaines de milliers de gens. Et tu me demandes pourquoi pourquoi je favorise le discours des autorités qui me disent « il n'y a rien là-dedans » versus le discours d'un sonneur d'alerte qui raconte des histoires fantastiques. Et à l'échelle internationale, il faut quand même se le dire, en dehors des États-Unis, toutes les enquêtes qui ont été menées par des officines, si on parle essentiellement des ovnis, là, dans toutes les officines qui ont été menées, qui ont mené des enquêtes sur les ovnis ailleurs dans le monde, que ce soit les Britanniques, les Australiens, les Espagnols, la France, ils sont tous arrivés à la même conclusion. On n'a aucune preuve d'une visite extraterrestre. Encore une fois, leur discours, c'est de croire, si c'est faux, c'est de croire qu'il y a une conspiration à l'échelle internationale impliquant des centaines de milliers de gens. Donc, tu me demandes de croire un sonneur d'alerte qui n'a rien pour prouver son discours et d'accepter l'idée d'une conspiration à l'échelle internationale qui implique des centaines de milliers de gens versus une explication plus rationnelle qui est « ce gars-là essaie de se faire de l'argent en racontant une histoire, ben une histoire fantastique ». Dans mon livre à moi, le gars qui compte des bobards soit pour se rendre intéressant, soit pour faire de l'argent, me semble une hypothèse plus vraisemblable que celle du gars qui a vu une soucoupe volante dans un hangar et qui existe un complot à l'échelle internationale pour en cacher la réalité. Alors, je demande, si c'est vrai, amène-moi une preuve, et là, ben, je pourrais réfléchir là-dessus. Mais c'est toujours cette idée-là de confronter le plus vraisemblable en allant vers le moins vraisemblable sur la foi de preuves et d'évidences, et toujours se rappeler que le témoignage n'est pas une preuve en soi, que le témoignage, il est facilement, d'une part, falsifiable, et il peut facilement aussi être manipulé.
C'était une autre édition très, très, très intéressante des Radio X-Files. Christian, on va se retrouver la semaine prochaine?
Oui, absolument. Donc, la semaine prochaine, on va réentamer un nouveau cycle. La semaine prochaine, on va commencer avec les ovnis.
Ah ben,
sujet
parfait.
Toujours passionnant, dont beaucoup d'auditeurs
apprécient. Il ne se souffle pas, oui.
Oui, non, c'est un sujet qui ne se souffle pas encore cette semaine. Donald Trump qui a été questionné sur le sujet avec les astronautes d'Artemis en arrière-plan. C'est un peu amusant de voir ça.
Oui, absolument.